franceinter.fr.
13h29 sur France Inter, avant de passer la parole à Jean Lebrun, un dernier mot de politique à quelques heures du vote sur le plan d'économie de Manuel Valls, parce que la présidente du groupe Europe Écologie Les Verts, la coprésidente Barbara Pompili, vient d'annoncer que la très grande majorité des députés écologistes voteraient contre ce programme de stabilité. Vous le voyez, Jean Lebrun, ça va être serré cet après-midi à l'Assemblée, ça va être très chaud.
Ben c'est pour ça que nous avons convié Philippe Alexandre, pas pour la gastronomie et pas pour commenter les palmarès que vous citiez, mais pour se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un jour une menace de dissolution? On évoquera celle de 1997. Quels sont les serpents qui sifflent sur les têtes des députés socialistes?
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Je dissous l'Assemblée nationale. Jacques Chirac, avril 1997.
La dissolution n'a jamais été faite pour convenance personnelle du président de la République. Ça, c'est une conception monarchique du pouvoir que je n'ai pas. La dissolution est faite en cas de crise majeure.
Donc si pas de crise, pas de dissolution.
C'est tout à fait ça.
Le déficit frise les 4%, bien au-dessous de la ligne de flottaison autorisée, 3% par l'Europe. Il manquerait 50 milliards pour boucler le budget. Nous sommes en avril 1997 et l'entrée prochaine dans l'euro exige une cure d'amincissement. Jusqu'ici, le parallèle avec 2014 est tentant. Mais si aujourd'hui François Hollande devait dissoudre, ce serait contraint par la fracture qui se dessine dans sa majorité. Il lui reste sans doute un peu de temps à utiliser. On crédite les socialistes de beaucoup de défauts, mais ils ne sont pas suicidaires. En 1997, c'est le président lui-même qui précipite les choses. Sa majorité ne tient pas à un fil, il est encore assez populaire, en tout cas bien davantage que son premier ministre. Il a des munitions dans la gypsière. Néanmoins, il bricole avec les petits chimistes de l'Élysée une dissolution complètement atypique, en réalité, une bombe qui lui explose au nez. Je reprends le vocabulaire qu'aime bien Philippe Alexandre. Bonjour, Philippe Alexandre.
Bonjour.
Alors,
bonjour,
toute ressemblance de notre émission avec l'actualité est à exclure. Ah, vous auriez bien aimé parler de l'actualité, du monde radieux, de la France sereine, où sont heureux les socialistes. Plus heureux qu'un socialiste en France, il n'y a pas. C'est votre dernier titre, hein, c'est ça?
Mais oui, c'est ça, mais enfin, je ne parle pas de dissolution.
Ce livre, vous l'avez écrit avec Béatrix de L'Aulnoy. On va faire appel à vos témoignages, à vos souvenirs personnels. D'ailleurs, vous aviez publié un livre sur la campagne étrange qui a suivi la dissolution de 1997. Un très beau livre qui s'appelait « Nouveau paysage de campagne ». Vous aviez déjà beaucoup d'ennemis à l'époque, hein ?
Oui, un petit peu, mais vous savez, c'est pas grave. Les ennemis en politique, on les oublie très vite, hein.
Oui, mais enfin, eux n'oublient pas. Tenez, on va prendre l'exemple du premier ministre de l'époque, c'est Alain Juppé.
Oui, alors lui, ça a duré assez longtemps parce que j'avais été très outrageant pour lui quand il avait écrit un livre qui s'appelait La Tentation de Venise. J'avais fait un jeu de mots un peu ridicule, un peu bébête. J'avais dit, vous savez, ça vaut pas mort à Venise. Il avait été furieux et pour aggraver mon mal, je lui avais envoyé un exemplaire du livre
de Thomas Mann. Alors Alain Juppé est Premier ministre depuis 1995. Il s'est rendu très impopulaire à cause de sa tentative de réforme des retraites et de la sécurité sociale. On disait que la politique qu'il menait n'était pas en phase avec la campagne sur la fracture sociale, voilà, qui avait permis l'élection de Jacques Chirac à l'Élysée.
Et surtout, il n'était pas tranquille, il n'avait pas une majorité confortable. Hein. La majorité, la droite, hein, de l'époque, depuis l'élection de Jacques Chirac, était encore traumatisée par la formidable guerre intestine qui a opposé Chirac à Balladur. Et les Balladuriens ont été en disgrâce pendant de longs mois.
Vous voulez qu'on évoque, on va commencer en décembre 1996, un autre livre de Alain Juppé, qui s'appelle « Entre nous » et qu'il publie à la fin de l'année 1996 dans les circonstances que retrace ici ce reportage de France 3.
Sont raisonnables. Retire ton plat, Juppé.
Une passante de Bordeaux avait exprimé un jour de manière encore plus crue son désappointement. Morocco. Interpellation, c'est à Alain Juppé qui le raconte, à l'origine de ce livre. Il a eu envie de lui répondre, de lui conter les difficultés de la politique, mais aussi ses doutes, voire ses blessures devant l'impopularité qu'il suscite.
J'ai pas l'impression d'être en dehors du monde. On pense toujours ça des hommes politiques et en particulier de ceux qui assument les responsabilités les plus élevées. Alors c'est aussi un peu le sens de ce livre. J'ai voulu montrer de temps en temps que, après tout, je suis comme tout le monde.
Il est aussi très rare qu'un premier ministre ou qu'un homme politique ait atteint ses sommets d'impopularité. Alors je pense que c'est peut-être la dernière carte qu'il essaye de jouer, et cette carte est évidemment une dame de cœur.
Un pas vite comme vous dans le commentaire politique, Philippe Alexandre, c'était Jean d'Ormesson. Là. Il a l'impression d'être une tête à claque et d'avoir les pieds dans le béton parce que les circonstances économiques, dit-il, sont très inquiétantes.
Vous savez, c'est curieux parce que finalement, toutes les réformes qu'il envisageait ou et qu'il avait commencé à mettre en pratique et que, en fait, qui ont provoqué cette formidable levée en masse des Français contre sa politique, finalement, après coup, très vite, elle a été considérée comme tout à fait raisonnable, à la fois par la droite et au fond, mezzo voce, par la gauche aussi, qui considérait que c'était en effet des mesures à prendre. Impopulaire, mais des mesures nécessaires.
Parce que l'entrée dans l'euro, c'est pour bientôt, et la règle du contrôle du déficit public, c'est pour tout de suite. Il y a une différence avec aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, elle aussi, est dans une situation économique fragile.
Absolument, mais il n'empêche qu'il y avait quand même cette entrée dans l'euro et surtout la monnaie commune, la monnaie unique. Hein. C'était ça qui était vraiment... On allait choisir l'euro, la monnaie unique, il y avait pas encore le nom n'était pas encore décidé, mais il fallait vraiment montrer qu'on était les bons élèves de l'Union européenne.
Noël 96, c'est le temps de réfléchir. Jacques Chirac envoie Alain Juppé à Taroudan, à la Gazelle d'Or. Vraiment, le président de la République recommandait à son Premier ministre de se remplumer.
Voilà, et surtout, quelques semaines avant, il avait fait une intervention à la télévision pour dire « En tout cas, je ne change rien hein ». Le bruit commençait à courir d'une dissolution. On savait qu'il avait des difficultés avec sa majorité, que les baladuriens avaient toujours du vague à l'âme. Ils étaient d'ailleurs absents du gouvernement, pour la plupart d'entre eux. Et donc, il fallait resserrer tout ça. Et donc, on parlait beaucoup de la dissolution.
Et on allait réfléchir à la question pendant les vacances de Noël. J'arrive pas à vous faire parler de gastronomie. Lui ou elle, Bernadette Chirac, choisissent le régime minceur, c'est-à-dire oui, Michel Guérard, non?
Mais vous savez, je ne sais pas, moi je l'ai pratiqué, hein, ce régime, le régime Guérard. Je suis allé à Guérard, chez Guérard, et je suis allé à Eugénie Lévin. Et je peux vous garantir que ce n'est pas un régime minceur, c'est un régime formidable. Hein.
19h30 hier soir dans l'église d'Eugénie-les-Bains. La petite station thermale des Landes s'apprête à célébrer la nativité. Il y a foule dans ce lieu de culte où une banderole, surprenante en pareil endroit, domine la nef. Bienvenue Monsieur le Président, en lettres d'or sur fond tricolore, c'est la seule modification faite au programme de cette messe de Noël par le curé d'Eugénie, Denis Labatte.
Peut-être ils ne sont pas venus uniquement pour moi, mais bon, il y avait une personnalité quand même qui les a attirés un peu plus.
Car la communauté attend deux paroissiens inhabituels, Bernadette et Jacques Chirac. Cantique de Gounod et chant gascon ponctueront la cérémonie interdite aux caméras, mais très appréciée par le chef de l'État, qui le dira à la sortie au Père Labatte, après le rituel bain de foule.
Merci, mon père.
Et merci encore.
Super.
Super, parce que de mémoire d'homme, on ne connaissait pas ça au pays, et ce sera une très bonne histoire pour Eugénie Lévin.
Le couple présidentiel restera dans les Landes jusqu'à dimanche pour se reposer.
Et pour penser, alors vous dites que Jacques Chirac, pour lui, la pensée, c'est l'enjambée. Je vous cite, hein, Philippe Alexandre, je ne prends pas de risque. Alors, qu'est-ce que c'est les solutions? Changer de Premier ministre, remanier, parce que vous dites qu'il y a déjà dissolution sous Roche, mais il y a d'autres possibilités.
Il y avait beaucoup d'autres possibilités, bien entendu. Mais, vous savez, on était quand même très, très impressionnés par les deux dissolutions, enfin les deux élections législatives qui avaient accompagné les élections présidentielles de Mitterrand. Les deux en 81, 88.
Là, on avait 10 sous pour avoir une chambre là, il avait conforme au résultat de la présidentielle.
Exactement, et ça avait très bien marché pour l'ancien président. Et donc, Chirac a été très impressionné par ça, parce qu'il a perdu, en 88, alors qu'il s'attendait vraiment à gagner. Ça a été une espèce de choc en retour, dont il a vraiment subi les retombées pendant de longs mois, en tout cas. Donc, il fallait en tout cas éviter une nouvelle cohabitation. Je vous rappelle que les élections législatives, elles étaient annoncées, prévues, programmées pour 98. Donc, on s'approchait beaucoup déjà des élections législatives et la droite avait la hantise de ne pas subir cet affront d'une cohabitation forcée.
Mais Jacques Chirac prétendait avoir des réseaux, c'est-à-dire avoir un correspondant pour chaque département, Monsieur Fabre dans le département du Lot, l'industriel de la pharmacie, et d'autres tout aussi crédibles. Et alors ces réseaux et les sondages, là, nous sommes début 97, indiquent qu'il y a toutes les chances possibles pour la droite.
Absolument. Et d'ailleurs, ce qui était très impressionnant pour les gens qui gouvernaient, c'est que les sondages avaient complètement basculé. Hein. Ils étaient de nouveau très favorables et au président de la République et au Premier ministre. Hein. Ils avaient regagné, je ne sais pas, 10 ou 15 points tout d'un coup. Et tout d'un coup, c'était vraiment l'embellie miraculeuse. Donc, ça a sûrement pesé dans leur décision.
Je vous dis, tout ça n'a rien à voir avec l'actualité de 2014. Jacques Chirac, dans ses mémoires, dira « Dominique de Villepin, qui était secrétaire général de l'Élysée, a eu sa part dans la décision de la dissolution, comme tant d'autres qui ensuite ont pris soin de le faire oublier.
Ben » Oui, parce que tout le monde après a rejeté la responsabilité sur Dominique de Villepin, et il est certain qu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient favorables à la dissolution. D'ailleurs, moi je me rappelle très très bien être allé à l'Assemblée nationale le jour où Chirac a annoncé la dissolution, et dans l'après-midi, on savait qu'il allait le soir annoncer la dissolution à la télévision, et dans l'après-midi, tous les députés que j'ai pu rencontrer disaient « Bravo, bien joué, c'est un beau coup,
enfin, coup. » Il y avait eu des opposants, le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, Pierre Mazaud, qui est très attaché au constitutionnalisme et qui dit qu'on ne dissout pas comme ça par convenance, et qui aurait dit à Chirac « Je devrais te mettre mon poing dans la gueule ». On parle comme ça dans le milieu politique.
Oui, bon, les deux amis se parlaient comme ça. Hein, mais c'est vrai que, bon, mais Mazaud ne représentait rien. Hein, il n'était rien. Séguin était beaucoup plus modéré. Hein, Séguin était beaucoup plus modéré. D'ailleurs, après, il a pris une part prépondérante dans la campagne des élections législatives.
Mais attendez, on n'en est pas encore là. Nous sommes maintenant le 20 avril. Donc la rumeur court. Et Lionel Jospin est reçu par Anne Sinclair à 7 sur 7. Lionel Jospin, dont je rappelle, pour les plus jeunes de nos auditeurs, ou les plus indifférents de nos auditeurs, qu'il avait connu une défaite honorable à la présidentielle de 95.
Les critères actuellement demandés, c'est notamment celui du déficit budgétaire, qui ne doit pas excéder 3%. S'il y a une note qui circule actuellement de la direction du budget qui prévoit un déficit pour cette année de 97 de 3,8%, qu'est-ce qui se passe? Le critère explose? On n'entre pas?
Je vous fais d'abord une réponse très claire. Si, pour respecter le critère de 3%, que l'Allemagne, très vraisemblablement, ne respectera pas, qu'un certain nombre d'autres pays, dont nous souhaitons qu'ils entrent dans l'Europe, ne respecteront pas, si pour cela, avec le taux de chômage qui est le nôtre, avec la faiblesse de la demande, de la consommation et du pouvoir d'achat qui sont les nôtres, avec la faiblesse de la croissance économique, s'il faut imposer une nouvelle cure d'austérité au pays, ma réponse, elle est non. Non au respect absolu du critère des 3%. Et donc, si nous étions en responsabilité, je ne le ferais pas.
Je ne le ferais pas, Philippe Alexandre. Ça résonne très fort aujourd'hui. On ne va pas se laisser ligoter par la politique monétaire européenne.
Oui, mais on avait l'occasion à ce moment-là de montrer le bon exemple à l'Allemagne et de prendre la tête d'une croisade européenne en Europe qui aurait été, qui aurait changé le cours des choses pour notre pays. Mais c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était de bonne politique de s'opposer à une politique, on va dire, d'austérité, en tout cas de rigueur extrême, qui était très impopulaire. Et c'était un très bon argument pour Lionel Jospin en vue des élections dont il savait bien le dimanche que le lundi, elle deviendrait
une réalité officielle. À l'horizon. En bonne politique, et j'entends en même temps votre rire sardonique, Philippe Alexandre. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe au printemps de Bourges? Parce qu'il y a déjà le printemps de Bourges au mois d'avril. Dans Le Monde, de ce 29 avril 2014, il est dit que le printemps de Bourges est beaucoup moins militant qu'autrefois, moins engagé, et qu'il est fréquenté par des hédonistes adolescents dopés aux excès alcoolisés. Cependant, il y a un point commun entre 97 et 14. Il y a Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, à l'époque, en 97, avec Noir Désir. Alors, si vous ne comprenez pas tout, je traduis. Il va parler du FN. Il est temps qu'on parle du FN. Le FN qui est à 15%, chante-t-il. FN, souffrance. Mais qu'on est bien en France, quand même.
Au bistrot, comme toujours, il y a les beaux discours. Au poteau, les pourris, les corrompus aussi. Dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun devient brûlé.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Souvenir de 1997. Le titre que Philippe Alexandre, éminent chroniqueur à l'époque de RTL, la station concurrente, publie cette année « Heureux comme un socialiste en France ». Je ne sais pas si ça s'applique vraiment aujourd'hui, mais ça s'appliquerait parfaitement à 1997. Dites-moi, le FN est déjà en embuscade. Bertrand Cantat dit il est à 15%. Il ne se trompe pas, d'ailleurs.
Oui, oui, il est à 15%. Et surtout, ils ont obtenu une victoire au municipal. Il y a eu des élections partielles à Vitrolles, et ils ont pris la mairie de Vitrolles. Et le verre est dans le fruit pour le Front National, parce que la victoire de Vitrolles, c'est le couple maudit Maigret, et qu'il va y avoir une scission dramatique au sein du Front National.
Vous décrivez ça à l'époque, dans un livre, Nouveau paysage de campagne, ça c'est un livre de 97, comme le combat du taureau et de la musaraigne.
Oui,
c'était... Le taureau, c'est Le Pen ?
Le taureau, c'est Le Pen, le taureau qui fait peur à tout le monde.
Et la musaraigne ?
Et la musaraigne, c'est Bruno Maigret. c'était une image, une image qu'on se permet quand on écrit un livre.
Au fond, s'il n'y avait pas eu le tempérament un peu provocateur de Jean-Marie Le Pen et ce combat entre le taureau et la musaraigne, l'avancée du FN n'aurait pas été retardée de 10 ans.
Écoutez, peut-être un peu, mais vous savez qu'aujourd'hui, hein, on parlait un tout petit peu du présent, aujourd'hui, qui est au pouvoir au sein du Front National, autour de Madame Le Pen? Eh bien, c'est tous les anciens disciples et lieutenants de Bruno Maigret.
Revenons à l'histoire, si vous voulez bien, Philippe Alexandre. Oui, oui. On a le droit de dissoudre quand on est président de la République. La Constitution de la Ve République l'a permis déjà 4 fois.
Mais oui, absolument. Ça fait partie des attributions du président de la République. Il faut dire qu'on est dans un système un peu baroque. Parce que le gouvernement est en fait responsable devant l'Assemblée. Que l'Assemblée, au départ, dans l'histoire, dans la genèse de la Ve République, l'Assemblée est en mesure de renverser le gouvernement, et qu'en fait, toute la gestion de la Ve République par les gouvernements successifs, de droite et de gauche, hein, parce que François Mitterrand a joué très très bien le rôle du continuateur du général de Gaulle, eh bien, c'est d'empêcher qu'il y ait des crises. Le gouvernement n'a plus été renversé depuis 62. La dernière fois, c'était en 62.
Le 21 avril, date fatidique pour lui, le 21 avril, Jacques Chirac, au journal télévisé.
Mes chers compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ensemble, nous devons réformer en profondeur l'État, afin de permettre une baisse de la dépense publique, seule façon d'alléger les impôts et les charges qui pèsent trop lourdement sur vous et qui trop souvent vous démotivent. Et puis, il y a l'Europe, le passage à la monnaie unique, indispensable si nous voulons nous affirmer comme une grande puissance économique et politique, avec un euro à l'égal du dollar et du yen. La réforme des institutions européennes, que nous voulons plus démocratiques, plus équilibrées, plus efficaces. L'élargissement de l'Union aux jeunes démocraties qui appartiennent à la famille européenne et qui formeront avec nous la grande Europe. Et surtout, ce qui me tient le plus à cœur, une Union européenne au service des hommes.
Alors, dans ses mémoires, plus tard, Jacques Chirac dit « Pas terrible, mon discours, il y avait trop de thèmes. » Et puis après, il se justifie « En plus, j'ai pas fait la campagne, alors que c'est moi qui avais pris la décision, parce que c'est au-dessus de mes responsabilités de faire de très près la campagne. »
Oui, en fait, il a fait la campagne. Hein. D'abord, il a fait une intervention dans la presse régionale qui lui a valu une volée de bois vert de la part de la gauche. Et puis, entre les deux tours, il est intervenu directement à la télévision. Il a fait la campagne. Il a fait la campagne que fait tout président de la République quand il y a des élections nationales.
Alors vous êtes un vieux routier des campagnes et dans votre bouquin, vous avez quand même fait tout un livre sur la campagne de 97. J'en ai connu des plus belles.
Oui, bien sûr, il y en a eu des plus belles. Je vais vous dire, c'était une campagne à front renversé, au fond. Les socialistes, au départ, n'étaient pas prêts à une victoire et à exercer le pouvoir. Ils avaient pris des décisions qu'ils ont d'ailleurs très vite regrettées en ce qui concerne les emplois des jeunes, la diminution du temps de travail. Donc, ils avaient pris des décisions comme ça dans les congrès, dont ils se sentaient confusément que ça serait difficile de les appliquer. Et qu'en tout cas, comme m'a dit un jour Dominique Strauss-Kahn, en tout cas, on ne pensait pas les appliquer simultanément comme on l'a fait.
Oui, mais à partir du 1er mai, il y a des signes très positifs pour les socialistes.
Il y a un événement considérable le 1er mai, c'est qu'après l'ère Thatcher, les travaillistes remporte la victoire aux élections législatives en Grande-Bretagne. Et évidemment, ça sonne comme une espèce de bienheureuse surprise pour les socialistes français qui ne manquent pas d'ailleurs de se déclarer tout à fait solidaires des travaillistes britanniques. Ils vont changer d'avis quand le Premier ministre s'appellera Tony Blair.
Les collaborateurs de Lionel Jospin à l'époque, j'ai noté qu'apparaissaient deux noms de jeunes pousses prometteuses dans le premier cercle, Aquilino Morel et Manuel Valls.
Oui, tous les deux ont fait partie du premier cabinet, enfin du cabinet, dès qu'il a été fermé, de Lionel Jospin à Matignon. Ils avaient des rôles considérables, surtout Manuel Valls, hein, qui venait de chez Rocard, qui était un rocardien, ce qui n'était pas du tout la tendance ou le courant de pensée de Lionel Jospin. Donc il était vraiment aux avant-postes à Matignon, à qui Lino Morel était beaucoup plus dans l'ombre.
Vous n'avez jamais réussi à accrocher le regard de Lionel Jospin?
Qui est-ce qui peut accrocher le regard de Lionel Jospin, d'un homme qui est tellement, frileux devant la vérité, hein? Tout le monde se souvient de ces dénégations quand les journalistes ont raconté, expliqué qu'il appartenait à la tendance la plus révolutionnaire des trotskistes. Et évidemment, il l'était tout en étant membre de la direction du Parti Socialiste, ce qui était une situation tout à fait ambiguë et grotesque même.
Les sondages deviennent favorables aux socialistes dès le 5 mai et le résultat le 26 mai. C'est comme l'avait prévu Bertrand Cantat, le FN à 15%, comme ne l'avait pas prévu Jacques Chirac, la majorité à 36%. Et comme avait fini par l'espérer Lionel Jospin, la gauche, qu'on allait bientôt dire plurielle, à 42%. Et le lendemain...
Commençons par ce coup de théâtre. Il y a 3 heures, Alain Juppé annonçait qu'en tout état de cause, il ne resterait pas à Matignon dès la campagne terminée, car il sentait bien que sur son nom se polarisaient les rejets. Il a donc voulu prendre les devants et rester fidèle à sa devise qu'il avait utilisée en une autre circonstance, droit dans les bottes. Écoutez-le.
Le retour au socialisme, ce serait le contraire du changement. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui incarne le renouveau. C'est sous son impulsion que la France se modernisera. Nous avons une semaine devant nous pour mieux faire comprendre notre vision de l'avenir.
Et parmi les noms évoqués pour lui succéder à Matignon, ceux de Philippe Séguin et Alain Madelin, les deux hommes se sont retrouvés aujourd'hui pour tenir meeting à Chambéry.
Pour réussir ensemble l'avenir, mes chers amis, il nous faut aujourd'hui un sursaut populaire par l'alliance d'une politique libérale, c'est-à-dire d'une politique qui libère les énergies, et d'un sursaut politique, un sursaut gaulliste.
Nous sommes conscients tous deux que ce n'est pas par moins de solidarité que nous entrerons mieux dans la modernité.
Voilà, on l'a ressorti, les deux solitaires de la droite, Alain Madelin, puis on a entendu la voix de violoncelle, je vous cite Philippe Alexandre, de Philippe Séguin, mais on a entendu aussi que ça tirait à Huéadia et qu'ils étaient sur des lignes contraires. Le deuxième tour,
oui, mais
le premier.
Ils avaient un point commun, c'est qu'ils étaient tous les deux violemment anti-Juppé. Hein.
Dites-moi... Deux étudiants de Sciences Po, très propres sur eux, polis, viennent vous demander, mais alors, à l'issue de toutes ces rocambolesques aventures, qu'est-ce qu'il faut penser, Philippe Alexandre, du corps électoral en France ?
Eh bien, c'est quelque chose que j'ai souvent pu constater au cours de cette longue carrière à observer la politique, c'est que chaque fois qu'on essaie de manipuler, de forcer la main du corps électoral, eh bien, chaque fois, ça se retourne contre la personne, le pouvoir qui a organisé cette opération. Et c'est quelque chose qui s'est presque toujours manifesté, concrétisé. Le plus bel exemple, ça va être... Lionel Jospin, sa candidature présidentielle. Il avait tout fait avec l'aide de Chirac pour essayer de forcer la main du corps électoral en faisant coïncider l'élection présidentielle et les élections législatives. Il pensait évidemment que les électeurs ne se déjugeraient pas et qu'ils voteraient dans les deux scrutins de la même façon.
Moralité,
ça s'est retourné contre lui.
Il est permis de rêver le corps électoral, il n'est pas permis de l'étreindre. Et c'est comme ça que la cohabitation commence et qu'en 1997, Jacques Chirac devient résident de la République. Vous me direz que quand on est résident de la République, ça redonne des chances d'être réélu. À l'élection suivante. Merci à vous, Philippe Alexandre. Votre dernier livre chez Plon, l'émission était réalisée par Marie Casanova. à la technique David Federman, l'équipe de la Marche de l'Histoire, Isor Pisani-Ferry, Ilinka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard.